Les rencontres d'Edmond Morel. Jean-Michel Rioux, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication dans la collection de Poche J'ai lu du premier tome de ce qui sera un diptyque « Un jour je serai roi », premier tome de Versailles, le palais de toutes les promesses, dont le deuxième tome vient de paraître chez Flammarion. Alors, revenons d'abord à celui-ci avec une première question sur le roman historique. Est-ce que ce n'est pas, et quand on vous lit on en a la conviction, une magnifique machine à explorer le temps ?
C'est une machine, magnifique machine à explorer le temps, à le réimaginer, à le, se le raconter et à le raconter aux autres. L'histoire, c'est en effet un monde merveilleux qui enchante. Et de cette façon-là, le miracle du roman historique, c'est de réenchanter l'histoire, parce que finalement, on prend les faits. Alors ça, on les respecte scrupuleusement. On n'a pas le droit de les changer. Mais vous savez, c'est comme dans un tableau. Au fond, vous allez peindre Louis XIV parce qu'il était devant le château de Versailles tel jour à telle heure, et ça vous le savez parce qu'il y a un témoignage. Mais est-ce qu'il était soucieux ou heureux ? Est-ce qu'il souriait ou est-ce qu'il fronçait le sourcil ? C'est cette invention-là qu'on s'autorise, et après de dire, bah voilà, il souriait parce que, ou bien il était soucieux parce que finalement, là, on rentre dans le roman.
Oui, alors là, vous parlez des états d'âme, des personnages historiques existants, mais autour de ces personnages-là, vous en inventez. Et alors là, ceux-là, comment vous les fabriquez ? J'imagine que vous les connaissez par cœur depuis la naissance, en tout cas pour le personnage principal, mais aussi pour les autres. Vous devez construire vos personnages.
Oui, ici, par exemple, puisqu'il s'agit de la construction du château de Versailles, j'imagine un personnage central qui est Toussaint de la Forge. Au fond, l'idée m'est venue de le faire vivre et de le faire débuter dans la vie, de le faire naître le même jour que le roi. Bon, il naît au mois de septembre 1638. L'un naît le roi dans un château et à Saint-Germain, et l'autre naît dans une cave au milieu des rats, mis au monde par une devineresse, une sale bonne femme, on peut le dire, alors que sa mère meurt le jour même. Eh bien, bon, ça c'est le point de départ, parce que je voulais raconter en parallèle l'histoire d'un roi, d'un celui qui va devenir roi et qu'au fond doit s'inventer une véritable histoire, doit s'inventer un règne, et l'autre qui doit s'inventer une vie. Alors l'un va s'inventer un règne avec la construction du plus grand, du plus beau château du monde, de l'époque, et l'autre va s'inventer une vie, mais en se disant, pour m'en sortir, il va falloir que je sois plus fort que les autres, il va falloir que je morde, je tue, peut-être, et ce qu'il fera. Bref, pour que je puisse exister, il va falloir que je détruise ce qui me résiste. Donc il y avait un parallèle intéressant entre la construction et la destruction, le tout nous amenant à Versailles, puisque ce fameux Toussaint, on va le retrouver, bien sûr, sur la construction du château.
Alors, la construction du château, c'est un chantier invraisemblable qui a duré 50 ans, avec des centaines, je n'ose pas dire des milliers, mais en tout cas d'artisans qui tournent autour de ce chantier. C'est tout un monde dans lequel vous plongez votre plume.
Mmh. Oui, vous pouvez même dire des milliers, même des dizaines de milliers, figurez-vous. Certaines années, il y a plus de 10 000 hommes qui travaillent sur le chantier du château de Versailles. Donc, bah, évidemment, après, comment vous dire, vous vous dites 10 000, alors vous imaginez le nom, et puis les choses se font plus précises, et puis il y a un visage qui apparaît, il a 16 ans, il a la vie devant lui, il est venu à Versailles parce qu'il a entendu parler de cet Eldorado, et pour lui, voilà, tout va lui réussir. Et puis il y en a un autre, il est plus fatigué, et ça fait quelques années qu'il est sur le chantier, et on sent qu'il a quelque chose à cacher. Est-ce qu'il ne serait pas là, dans cette foule, parce qu'il a justement une vie qu'il voudrait cacher aux autres ? Est-ce qu'il n'a pas un passé lourd ? Alors voilà, vous avez déjà deux personnages qui laissent comme ça. Donc en fait, si vous voulez, après vous vous inventez des personnages et puis vous les travaillez, vous les écrivez. Moi je vais très loin dans le détail, je vais jusqu'à m'imaginer s'ils sont gauchers ou droitiers, s'ils boivent du vin ou de l'absinthe, enfin il n'y avait pas d'absinthe à l'époque, du vin ou de la bière par exemple, puisqu'à l'époque on buvait beaucoup de bière ou de vin. Mais vous voyez, je vais dans le détail, comment ils sont habillés, est-ce qu'ils sont grands, maigres, etc. Et quand je tire mon personnage, parce que c'est une somme à la fois d'aspect physique et psychologique, eh bien, je les rentre dans mon histoire et ils deviennent vivants. Et à ce moment-là, ils m'échappent souvent. Parce que donner naissance à un personnage et le faire grandir, à un moment donné, il vit par lui-même et la plume n'a plus qu'à courir. Vraiment.
Alors, lorsqu'on voit les descriptions que vous faites, il y a aussi le style. Est-ce que c'est un style qui s'est construit par les sujets que vous traitiez. Vous évoquez la naissance de votre personnage principal. Quand on lit ces deux pages-là qui racontent sa naissance, on se retrouve dans Hugo, ou dans Balzac, ou dans la misère la plus totale des... Et alors, est-ce que le style vient par l'histoire, ou est-ce que d'emblée vous imposez de travailler d'une certaine manière la phrase ?
Ah, je ne sais pas. Je pense que l'histoire a ses exigences, mais l'écriture en a encore plus. Ce que j'essaie de faire, c'est du bel ouvrage, de la belle ouvrage, de la belle œuvre. Donc je travaille énormément l'écriture, parce que je pense que chaque mot doit avoir sa place, et qu'une phrase, c'est une musique, et ça doit devenir une danse, et que le paragraphe se construit comme ça. De la même façon, je travaille énormément mes dialogues, parce que j'estime que c'est pas du tout le même travail de faire une description que d'écrire un dialogue. Donc c'est des rythmes d'écriture qui sont différents, des temps de travail qui sont différents, et je pense que l'histoire, oui, est une exigence, mais je crois que c'est plus l'idée. Merci pour la comparaison hugolienne, mais ça me touche beaucoup, parce que j'adore. Mais c'est vrai que je peux penser à ça. C'est d'un seul coup, bon sang de bonsoir, on est dans le ventre de Paris. Bon sang de bonsoir, on est là, c'est pas le cas, mais on est à Waterloo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un moment donné, l'histoire qui prête aux descriptions et qui prête au plan large, comme au très très particulier, vous donne cette envie d'écrire avec une certaine amplitude et avec les clés mêmes du roman, du romanesque, c'est-à-dire c'est de l'envolée, de l'épopée, et il faut qu'on entraîne notre lecteur. Oui, absolument.
J'aurais pu citer aussi Alexandre Dumas et Eugène Sue, parce que c'est le même type de démarche, d'autant plus Alexandre Dumas, c'est un roman sur une vengeance, finalement, aussi, ce roman, si on prend la trame. Et donc là, on pense tout de suite à la référence du Comte de Monte Cristo. Mais si vous voulez bien, j'aimerais bien, parce qu'on a peu de temps, c'est pour ça que le débit est un peu précipité. Une question que j'aimerais quand même vous poser pour clôturer et donner envie aux auditeurs de se plonger dans ce livre. Vous avez parlé du plan large. J'aimerais que vous nous disiez comment vous construisez les plans de détail. Où est-ce que vous allez chercher toute cette documentation qui vous permet de dire que c'est sur tel type de table qu'on met telle écuelle dans telle auberge?
Ben, je travaille beaucoup sur à partir des tableaux. Et puis je visite beaucoup de choses. Versailles, je l'ai quand même parcouru quelques heures et quelques journées entières. Donc, et à un moment donné, même s'il n'y a pas beaucoup de mobilier, mais vous sentez à un moment donné, c'est... Donc, je m'imprègne un peu de tout ça. Et puis, à un moment donné, je ferme les yeux. Je me dis, bon, voilà, j'ai des éléments. J'ai lu 5 descriptions d'une taverne. Alors je ferme les yeux, puis je me dis, voilà, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu vois, il y a qui derrière ton épaule gauche ou droite, qui apparaît, d'où vient-il, est-ce qu'il y a une rôtisserie, forcément les murs sont noirs, etc. Donc à un moment donné, je le construis comme une scène de cinéma, si vous voulez. En fait, je n'invente rien d'autre, je ne fais qu'imiter pauvrement un Dumas ou un Hugo.
Alors terminons en revenant à l'histoire avec un grand H. Est-ce que vous avez le sentiment, lorsque vous écrivez une fiction avec des personnages autour de personnages historiques, que vous avez un éclairage différent ou plus instruit sur les personnages historiques, sur ce qu'ils ont été?
Ah oui, alors c'est incroyable, parce que quand j'ai découvert Louis XIV, en ce sens que, pas découvert en écrivant des romans, mais on rentre dans sa vie, hein. Avant qu'il devienne un compagnon de route, ça prend un certain temps. Puis ça devient un vrai presque un ami, ou tu vois, un compagnon, dont on apprécie les qualités et les défauts aussi. Bon, on s'entête un peu, et puis on se dit, mais au fond, tout ça, ce sont des hommes, tout ça, derrière ces statues représentées par les livres d'histoire pure avec un grand A, ou dans les tableaux dont on parlait tout à l'heure, ces représentations-là, il y a un bonhomme, il y a une femme, il y a donc des désirs, des envies, des regrets, etc. Et d'une certaine façon, plus on travaille le roman historique, et plus on approche le personnage historique, évidemment, et plus on lui donne chair. À partir du moment où on lui donne chair, on lui donne des sentiments, et on répond à ce moment-là à la question « parce que, pourquoi ?» C'est Hugo, puisque ça me vient là, c'est Hugo, vous en parlez, Victor Hugo, qui soumet Napoléon à Waterloo. Bon, on peut en parler de Waterloo par ici, je pense.
Il a d'ailleurs terminé Les Misérables ici, à Waterloo.
Exactement. Et Napoléon se tourne vers le ciel et demande à Dieu pourquoi. Et Dieu lui répondit parce que.
Très bien. Eh bien, c'est sur ce sourire, Jean-Michel Rioux, que nous allons clôturer cet entretien qu'on aurait pu prolonger, mais malheureusement, nous n'avons pas pu le faire. Versailles, le palais de toutes les promesses, est le titre générique de ces deux livres. Un jour, je serai roi, qui vient de paraître en collection de poche chez J'ai lu. Et le deuxième, Le roi noir de Versailles, est le deuxième tome qui est paru déjà en collection Grand Livre chez Flammarion. Merci Jean-Michel Rioux.
Merci de votre accueil.
Les rencontres d'Edmond Morel.